pas. Heureusement qu'enfant, on ne se drogue pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Il est 18h40 et nous sommes trois aujourd'hui pour animer cette émission. Il y a moi-même, François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Dominique.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, comme
d'habitude... Il fait 23 degrés dans le studio, je viens de vérifier.
Très bien, c'est pour ça qu'il y a un petit
chaud,
bruit de clim qui tourne.
À 10 secondes de l'émission, on n'avait pas encore de sommaire, donc c'était très chaud.
Voilà, et si vous nous suivez tous les dimanches de 18h à 19h, vous savez qu'aujourd'hui on va parler d'actualité geek et ludique. Et on a préparé un sommaire qui est très basé sur l'agenda aujourd'hui. Nous avons même testé quelques jeux de société grâce à Reynald. Et nous avons de la musique qui est prête dans le lecteur CD, dans la platine vinyle. Je vous propose tout de suite d'ouvrir avec l'agenda. Est-ce que vous avez un événement qui vous tient à cœur, qui va se passer prochainement ou qui est peut-être en train de se passer actuellement ?
Alors, à partir de... Oui, ça commence cette semaine, on va essayer de faire ça chronologiquement. Donc on en avait un petit peu parlé, le Festival Ciné-Comédie à Lille, qui commence le 30, donc c'est-à-dire mercredi. Donc c'est la troisième année, si je ne dis pas de bêtises. Et comme chaque année, il y a des projections de films, mais il y a aussi une exposition. Je suis allé voir l'exposition tout à l'heure, l'exposition Bourville qui est au Palais Rioux, très sympa. Et il y a des projections de films, ça commence même mardi, les projections de films. Et petite chose à noter, les projections sont gratuites. Même quand c'est diffusé, que ce soit en plein air ou à l'UGC, ou au Magétique, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'il faut réserver. Donc sur le site du festival, c'est festival-cinécomédie.com. Vous avez toutes les informations, le plan, etc. J'ai le dépliant sur les yeux. Un petit rappel, ils en profitent pour passer des films. Alors il y a deux invités d'honneur cette année. Il y a Jean-Paul Rapneau, qui a réalisé pas mal de films, donc certaines comédies, et Agnès Jaoui également, qui a fait des comédies plus récentes. Et ils seront sur place et il y aura des soirées spéciales où on pourra les interviewer, etc. Réserver vos places. Et ils diffusent des films, notamment.
Alors donc, toi qui as fait cette exposition Bourville, c'est essentiellement basé sur les films qu'il a pu tourner.
C'est que des films. Alors, c'est chronologiquement, c'est sympa. Et c'est que... Alors, il y a beaucoup d'extraits, de documents qui viennent des collections de ses enfants, qui vont venir d'ailleurs un jour. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je trouve la date, parler de leur père. Et donc, ils ont fourni beaucoup de documents. Et c'est beaucoup ce qu'on appelle des images de films ou des affiches de films. Et c'est chronologique. Et j'avoue qu'on connaît tous le corneau, la grande vadrouille, le cerveau, le cercle rouge, etc. Enfin, c'est classique. Mais au tout début de sa carrière, il a fait pas mal de films. J'avoue qu'ils sont passés inaperçus. Et c'est pas plus mal. Il joue en général il joue des simplets ou des bénets, souvent. Je dois me dire, même dans ses derniers films, il joue souvent des simplets ou des bénets. Mais il y a beaucoup de films. J'ai découvert pas mal. Il y a un film que j'aime bien, moi, c'est Le Passe-Muraille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Garou, Garou, Le Passe-Muraille. Un vieux film. Etc. Et j'ai découvert dans l'exposition qu'en fait, ce film, il l'avait tourné en français et en anglais. C'est-à-dire qu'il y avait un acteur. Lui, Bourville jouait le rôle français, enfin le personnage en français. Et il rejouait les scènes avec un acteur américain, enfin ou anglais ou américain, je ne sais plus. Il rejouait les mêmes scènes. Et le film est sorti, il s'appelle Mister Picaboo, quelque chose comme ça.
Alors, c'est Bourville qui parlait en anglais ou
non,
il était
Bourville
remplacé.
Est en français. Non, Bourville faisait le rôle en français. Et tout de suite après, il profitait du décor pour rejouer avec l'acteur anglais la même scène en anglais.
Ah, c'est fou parce qu'il y a plein d'adaptations qui ont été faites de films français aux États-Unis.
Et des fois, tu as les comédiens français donc, qui font exprès de jouer en anglais. Et des fois, ils redoublent leur propre voix pour la version française plus tard. Enfin, mais là, on va aller avec les moyens du bord, c'est assez étonnant.
J'ai l'impression que ça pourrait donner de grandes idées à Netflix.
T'inquiète pas, c'est déjà le cas.
Ils en ont déjà beaucoup comme ça. Voilà. Donc parmi les films diffusés, que ce soit l'UGC, au Magicien, etc., vous avez bien sûr la 7e, mais où est donc passée la 7e compagnie et le retour de la 7e compagnie.
Ouais, mais ça c'est pour des hommages.
Oh, exactement, parce qu'il y a un hommage à Robert Lamoureux, entre autres, etc. Mais il y a énormément de films, c'est la folie. Et je vous rappelle, le jeudi 1er octobre au soir, à partir de 18h, à Saint-Sauveur. Il y a des animations autour du film Les Blues Brothers. Nous, on fait le 40e anniversaire. Le film sera diffusé en plein air, donc à 20h30. Et juste avant, il y a des quiz, il y a des animations musicales autour des Blues Brothers. Donc, c'est pas sympa. Il faut voir le temps qu'il fera jeudi. Mais bon, un détail.
C'est pas sûr.
Alors, c'est ça qui est assez impressionnant à voir. D'habitude, ces projections étaient faites dans des salles de cinéma. Maintenant, on voit que de plus en plus, on met en place des scènes à l'extérieur où les gens vont regarder un film à l'extérieur.
Pour ce genre de film, c'est des comédies qu'on a vues et revues. Pour ma part, je le connais par cœur. Donc je vais essayer d'y aller, mais on verra bien. Mais je le connais par cœur, ce film. Donc, même si c'est en mauvaise qualité et que je le vois de loin, ça ne va pas me déranger, quoi, parce que je connais les répliques par cœur pratiquement. Donc, c'est vraiment ce genre de film. Il n'y a pas besoin d'avoir une salle super confortable. Même, j'avoue, si c'est appréciable, parce que l'année dernière à Cinéo Comédie, j'en avais profité pour revoir un film que je connais aussi par cœur, parce qu'il passe tous les ans à la télé, c'est L'Homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Et bah, pour une fois, au lieu de le voir devant ma télé, je l'ai vu dans une salle de cinéma, dans un siège bien confortable, etc. C'était très sympa. Ça change un petit peu, c'est très sympa. On a l'impression de revoir le film différemment.
Après, tu as des films que tu peux voir, parce que tu les as vus justement dans un cinéma ou chez toi dans ton fauteuil, que tu connais les répliques, comme dit Dom, par cœur. Tu les vois autour d'un verre avec des potes au bar. Ça aura un effet un peu plus accru. Tu vas vraiment prendre plaisir à raconter, reprendre les anecdotes du film, refaire les paroles au même moment. Enfin, c'est un moment donné où tu peux faire justement comme à Saint-Sauveur, faire un côté, un événement culturel où tu seras entre potes et vraiment bien faire une bonne soirée.
Et c'est typiquement le truc où tu vas avec tes enfants, si t'es 40-50 ans, que t'as des enfants de 10, 15, 20 ans qui n'ont pas vu ces films-là, pas forcément, ils vont pas les regarder, ils ont leur propre film culte. Mm-hmm. Mais toi, c'est... T'as du mal, tu vas pas les mettre devant ta télé chez toi avec un DVD ou un Blu-ray ou peu importe, ou même une cassette si t'as encore ta cassette, ou une rediffusion, et leur montrer, tiens, regarde la 7e compagnie. Les mecs disent, je vais pas regarder ça, j'ose à faire.
Mais là, c'est pas sur Netflix.
À l'occasion, peut-être, à l'occasion d'une sortie avec tes enfants, tu vas aller et ils vont s'apercevoir. Donc il y aura des gens de tous les âges et tout le monde, il y a des gens qui vont rire, etc. Ça va donner une autre ambiance au film. Donc ça peut être l'occasion.
Ce qui serait intéressant de voir, c'est justement un sasso pour voir les Blues Brothers, si tu as des personnes qui vont se grimer.
Ah oui, forcément.
Dans les années 60,
tout le monde va venir avec des lunettes noires.
Ça peut être sympa.
Ça peut être très sympa.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui avait complètement disparu et qui revient à la mode. Alors, on ne parle pas ici de cassette ou de DVD. Mmh. C'est de regarder un film dans sa voiture. Vous vous souvenez, tout le monde se gare dans un grand parking.
Les drive-in, ouais. Voilà, merci.
Oui. Et alors... Moi, Dom, tu vas peut-être me lancer des objets lorsque je vais citer cette personne, mais c'est Kevin Smith qui fait ses spectacles avec Jason Mewes, ouais. Donc Jay, Silent Bob. Normal. Et maintenant, au lieu de faire ça dans... J'aime pas quand tu bouges ton micro. Au lieu de faire ça dans des salles, maintenant,
dans des salles de conférence,
font ça dans des drive-in. Donc, ils font un spectacle qui est rediffusé sur un écran géant en direct.
C'est
et les gens sont dans leur voiture.
C'est un tel fou de cinéma que je comprends tout à fait. Quoi. C'est un lieu. Alors, en France, on a moins la culture du drive-in, forcément, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est plus répandu, qu'on voit régulièrement dans des films, d'ailleurs. Il y a beaucoup de films où il y a des scènes au drive-in, etc. Surtout les films d'horreur où il y a des massacres d'adolescents, etc. C'est marrant. Mais c'est vrai que, et c'est revenu en France, on en a eu, parce qu'effectivement, comme les gens ne pouvaient pas aller au cinéma, dans le cinéma, c'était compliqué pendant le confinement surtout. Maintenant, c'est un peu plus facile, et bien, effectivement, il y a des cinémas qui ont fait ça en plein air, des projections, des municipalités, je ne sais pas, qui ont organisé ça, ils diffusaient ça sur une grande toile blanche, et puis les gens venaient en voiture, puis comme ça, chacun restait dans sa voiture, il n'y avait pas de problème de contact.
C'est peut-être plus approprié maintenant, et c'est peut-être pour ça que ça refait surface. Alors, qui d'entre vous a déjà regardé un film dans sa voiture? Effectivement. Hein.
Non, je ne peux pas dire plus.
Je ne vois pas où, non.
Mais bon, une petite idée à lancer.
Et sinon, parmi tout le programme, donc je rappelle, sur festival-cinécomédie.com, vous avez tout le programme. Il y a, par exemple, le vendredi 2, au Théâtre du Casino Barrière, il y a une soirée cinéma-karaoké sur le thème du film Grease. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui vont venir déguisés, pas déguisés.
Ça peut être... ouais. De mon côté, j'ai remarqué, et d'ailleurs j'ai réservé ma place dès que je l'ai su, le samedi 3, c'est en fin de soirée à l'UGC, donc 20h, 21h, faudra vérifier, il y a le film Spinal Tap, qui est un film de 1984 de Rob Reiner, qui fait un documentaire parodique sur un groupe fictif de heavy metal, c'est un film de culte, et si on ne l'a pas vu, il faut aller le voir au cinéma, à tout prix.
Vu que vous parlez de parodie, que vous parlez de karaoké, est-ce que ça vous dirait...
J'ai peur.
D'écouter un peu de Gad Elmaleh,
oh, mon Dieu.
Qui reprend du...
Qui c'est qui a parlé de karaoké, là?
C'est vrai que ce pauvre Gad Elmaleh, après s'être attaqué, tout seul, quoi, après le pseudo-scandale sur les parodies, enfin les copies, on l'accusait d'avoir copié des comics, etc. Enfin, je ne sais pas où s'en est cette histoire d'ailleurs, enfin, peu importe.
On pouvait accuser, on a remarqué qu'il avait repris beaucoup de sketchs.
Il s'était fait un petit peu oublier, et là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est revenu sur le devant de la scène en sortant un album de musique de reprises de chansons de Nougaro.
Et là, il a dit tout de suite, j'ai repris les textes de quelqu'un d'autre. Oiseau, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau.
C'est pas le premier à reprendre Nougaro, c'est pas un problème.
Mais ça sera peut-être le dernier du coup.
Là, c'est difficile.
Après les mecs, parce que je suppose que si tu veux reprendre Nougaro, il y a quand même des gens qui disent, voilà, tu as les droits, on te les donne,
si
tu les payes.
Si tu payes, que ça peut rapporter de l'argent, puisque enfin, je sais pas qui a les droits effectivement. Mais le problème c'est la qualité quoi. Enfin, ils chantent pas faux. Mais du karaoké, c'est du niveau karaoké.
Voilà.
Quoi.
Et puis Nougaro, c'est un timbre de voix, c'est un vocabulaire dans les paroles. Enfin,
ouais, ça pourrait être intéressant.
Le vocabulaire, tu l'apprends parce que tu apprends les paroles, mais après, il faut l'intonation de la chanson.
Chansons de Nougaro, voilà, il y a plein d'enfants qui les ont chantées en classe, voilà. Etc. Enfin, c'est des belles chansons. C'est pas, il y en a peut-être des plus ou moins compliquées à chanter. Mais le problème, c'est que payer un album de quelqu'un qui fait du karaoké, enfin, je sais pas.
C'est dommage parce que la base mélodique est assez jazzy, ce qui est,
ouais,
ce qui est assez sympathique.
Il a peut-être fait une petite adaptation.
Alors, si les musiciens jouaient avec le masque en dessous du nez, ce qui peut être assez contrariant pour les gens qui respectent les règles de sécurité.
Le saxophone, c'est embêtant. Mais pourquoi, Gad ? Pourquoi ? Blanc sur
noir. Et il y a des impôts ? Ou bien noir sur blanc, on
voit surtout du rouge. Je suis désolé.
Il chante pas faux, mais
il n'y a pas la puissance de Nougaro derrière. Dans sa voix, il y a
Donc il prépare effectivement un album. Ici, on écoute une version qui est passée
sur
la télévision française.
Il y a quelques années, quand il y avait deux personnes qui avaient repris Barbara, on en avait parlé même dans l'émission, on avait passé des extraits, il y avait Patrick Boel. On s'est dit, ouais, pourquoi pas ? Pas pourquoi la pauvre. Puis ensuite, il y avait Depardieu, tout le monde s'était moqué, sauf que Depardieu, il faisait du Depardieu avec. Enfin, c'était impressionnant ce qu'il avait fait, sauf que Depardieu connaissait Barbara, il l'avait fréquenté, etc. Enfin,
avait fait une interprétation originale.
C'était un hommage plus qu'autre chose, quoi. Quand Bruel est passé avant ou après, je ne sais plus, ça fait un petit peu récupération commerciale, etc. quoi. Tout ne justifie pas tout.
Voilà. Sinon, on peut se réécouter du Squeezie comme on a fait
la
semaine
dernière. Non.
D'ailleurs, ça nous a valu un gros larcène.
On parlait de Spinal Tap. On va avoir peut-être un petit Spinal Tap en fin d'émission.
Alors on va...
Musique.
Je vous propose de parler, avant d'entamer la musique, on vient d'écouter un peu de Gad Elmaleh.
Non, on ne vient pas d'écouter de musique, là. Attention.
Ok, je propose d'ouvrir... D'accord, Tom, je suis ton idée. Nous allons ouvrir avec une musique de Danananana Croyd.
Mais pourquoi ce groupe mystérieux ?
Effectivement, avec leur chanson Black Wax. Et pourquoi est-ce qu'on écoute ça ? Parce qu'ils sont originaires d'une petite ville.
Petite, c'est vite
dit.
Ouais.
D'une ville.
D'une des troisièmes grandes villes européennes, je crois.
On part ici.
D'Angleterre.
On part en Angleterre, à Glasgow.
Attention, on a des auditeurs en Écosse.
Voilà.
Attention, ne nous fâchons pas. Donc, heureusement, en Écosse, on ne se drogue pas. À part les membres de Danananana Croyd.
On a découvert ce groupe puisqu'on va tout à l'heure parler d'un jeu de société qui s'appelle Glasgow. Et on a décidé de faire un thème musical.
Moi, je me suis dit, mais Glasgow, il y a des groupes de rock et compagnie qui viennent de Glasgow. Puis en cherchant un peu sur un moteur de recherche, je me suis aperçu qu'en fait, il y a des centaines de groupes très, 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 très connus qui viennent de Glasgow. Hein. Simple Minds, pas au hasard. Mais il y a tellement de groupes connus, on va essayer de trouver les groupes les moins connus de Glasgow.
On écoutera peut-être deux ou trois groupes connus. Et c'est parti. Danananana Croyd, Black Wax.
Oh bien, non.
Inside the
dire qu'on est peut-être les seuls en 10 ans à avoir passé les Dananananacroyd.
Oui.
Même quand tu prononces le nom, tu te demandes si tu l'as bien prononcé, en fait.
Un groupe de fight pop écossais, quand même.
Et c'est quoi la fight pop?
Je ne sais pas, mais viens
voilà, merci. Tu fais un morceau de pop et après tu te pètes la gueule.
Et alors, donc, le nom du groupe, je ne vais pas le répéter, c'est une référence à Dan Aykroyd, le fameux comédien. Et dans quoi il a joué Dan Aykroyd? Dans les Blues Brothers, dont on parlait tout à l'heure. Pas mal, hein.
À croire que c'était fait exprès, dis donc.
Ça date de 2009, tout ça. Hein. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui.
Oh ben non, ils ont arrêté en 2011.
Alors, bon, on a lancé ce Glasgow. Je vous propose tout de suite d'attaquer le jeu de société.
Ah, tu veux pas continuer sur l'agenda? Ok, pas de problème.
Bon, écoute, l'agenda est tellement long que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attaquer ce jeu de société qu'on a testé Dominique et moi avant l'émission.
Absolument.
Ouais. Et que toi, Reynald, tu as été acheté dans les boutiques spécialisées de jeux de société. Et tu nous as présenté ce jeu qui est un jeu, alors c'est assez rare, un jeu uniquement deux joueurs. Parce que d'habitude, on a des jeux de 2 à 4, de 3 à 6.
Voire même des jeux qui se jouent à 1, et il y a des fois une variante pour jouer à 2.
Ici, c'est deux joueurs, voilà.
Des échecs, quoi.
Et alors, je vais essayer de résumer ça très très simplement pour bien plomber ta présentation.
Je te remercie.
C'est un peu comme si vous vouliez vous mettre à Agricola, mais que vous n'aviez pas le temps, alors vous allez prendre un jeu plus simple et à deux joueurs.
Oui et non. Parce que, en fait, Glasgow est un jeu de Mandela Fernandez Grandon, pour une durée d'une partie d'environ 20 minutes à 40 minutes en fonction de si c'est notre première partie ou pas.
La durée de partie sur les boîtes de jeu, mais là, plus compte, hein.
Ouais, mais là, ça fonctionne bien parce que, effectivement, la première partie est un peu longue le temps que tu lis la règle et que tu fais. Mais après, toutes les parties ont été de 30 minutes, grand max, voire 40 minutes quand tu as une personne qui réfléchit à la table sur les coups qu'il fait. C'est un jeu qui a été édité par Funforge dans sa gamme de jeux pour deux joueurs. Dans cette gamme-là, on retrouve l'Agricola qui a été sorti récemment en Big Box, donc avec des extensions qui étaient pendant un certain temps en pénurie.
Ça, c'est marrant parce que je ne savais pas qu'ils étaient liés à Agricola, mais mine de rien, on retrouve une mécanique.
Tu retrouves des mécaniques de classique.
Ouais. Du placement d'ouvriers ?
Oui et non.
Ah !
Parce que
c'est du mouvement d'ouvriers.
C'est du mouvement d'ouvriers. Dans cette gamme, on retrouve aussi, vu qu'on parlait de Jose Ronsenberg avec Agricola, pour le jeu à deux joueurs qui s'appelle Fermier de la Lande, tu as aussi Patchwork, Caverna, Caverne contre Caverne. Donc c'est une gamme de Funforge qui se spécialise pour les jeux à deux joueurs, qui commence à s'étoffer énormément, dont là, présenté Glasgow, et qui dernièrement est sorti Robin de Losclay, qui est juste sorti il y a une semaine. Donc je l'ai pris, on n'a pas encore le détesté.
Il y a un jeu qui est également sur la table et que tu
qui est sur la table, mais
c'est aussi un jeu pour deux.
Qui est aussi un jeu que pour deux. Alors, qu'on en reparlera une prochaine émission.
Il y en a un qui joue Robin et l'autre qui joue le shérif.
Non, là on jouera deux voleurs et on essaiera de faire des objectifs pour arriver le premier à la finalité. Mais on en reparlera dans une autre émission le temps qu'on aura le testé, voir si c'est vraiment excellent ou pas. Dans Glasgow, par contre, on est des marchands de la ville et on va essayer de reconstruire la ville, de la restructurer pour en faire une des meilleures villes d'Écosse et d'Angleterre. Comment ça va se passer? Comment on va préparer le jeu? Le jeu est simplement, comment dire ça, une alternance d'actions et d'architectes qu'on pose en cercle, des tuiles.
Alors, ce qui est important à dire au début, c'est que vous allez poser une sorte de cercle d'actions et il va...
Tuiles en carton.
Et il va vous rester des tuiles dans votre boîte. Donc vous allez poser au hasard et il va vous en rester.
Ce qui fait que plus tard.
La prochaine partie sera un petit peu différente.
Mais... Effectivement.
Mais en fait, dans ces actions, c'est ça. Il y a des tuiles, tu vas déplacer ton petit bonhomme, enfin à tour de rôle. Les deux joueurs vont déplacer et il y a deux types d'actions différentes.
Il y a les actions pour reprendre des ressources. Ouais.
Pour une fois, c'est très simple. Il y a quoi? Il y a du bois, de la brique.
Il y a de la brique, de l'acier, de l'or et un tonneau de joker qui est du whisky, parce que forcément, on est en Écosse, qui permet de faire n'importe quelle autre
ressource. C'est pas comme dans d'autres jeux où il y a du bois, de la pierre, du maïs, je sais pas, des dizaines de ressources. Là, t'en as pratiquement que deux, trois. Quoi.
Voilà. Là, il y a des tuiles actions qui donc, te permettent de reprendre des ressources, faire du commerce avec tes propres ressources pour en avoir d'autres, ou avoir une petite influence sur le jeu. Il y a aussi des tuiles, comme je disais, architectes, sur lesquelles on va placer des tuiles bâtiments que les joueurs vont pouvoir construire en dépensant leurs ressources. Et en construisant ces bâtiments, on va créer la ville au centre de la table, petit à petit. Et le jeu s'arrête quand on a construit le 20e bâtiment sur un rectangle de 5 sur 4.
C'est une espèce de puzzle. Quoi.
Et le placement des bâtiments est assez important si vous voulez activer après les ressources associées au bâtiment, ce qui est assez sympathique. Et des fois, même quand vous allez poser un bâtiment, vous allez donner un petit avantage à l'autre en espérant avoir, vous, un avantage après ou vice-versa.
Parce que chaque bâtiment... a une façon de scorer des points de victoire à la fin de la partie.
C'est un petit peu ce qu'on appelle une salade de points.
Presque, ouais, tout à fait, mais en même temps. Parce que tu as des bâtiments qui vont te rapporter 0 point, mais te permettre de, pendant la partie, te faire gagner quelques ressources quand on les activera, parce que tu as mis un bâtiment à côté. Donc là, après, tu as les parcs que François a bien aimé pendant la partie. Où tu as
les espaces verts.
Les espaces verts, voilà. Où, à la fin de la partie, tu gagneras... Okay. Le nombre de points égal au carré du nombre de parcs que tu as.
Plus t'en as, plus c'est mieux.
Quoi. Voilà. Et il y a des bâtiments qui te diront, à la fin de la partie, tu gagneras autant de points de victoire par tel type de ressources qui te restent en stock. Donc il faut savoir quel bâtiment construire, mais en même temps savoir où le mettre. Et à force de créer la ville en plaçant les bâtiments, tu vas créer petit à petit ton rectangle de 5 sur 4 pour faire tes 20 bâtiments. Tu vas te retrouver avec des espaces qui vont te être bloqués ou... Tu aimerais mettre un immeuble résidentiel pour faire plus de points à ce moment-là, mais ton adversaire t'a vu avant, donc va placer un autre bâtiment.
Soit tu prends le bâtiment que toi, tu vas te faire des points, ou tu prends un bâtiment pour empêcher l'autre de le construire. C'est classique dans ce type de jeu, j'ai envie de dire. Voilà.
Et le petit twist du gameplay dans ce jeu qu'on n'a pas encore énoncé, c'est que comme toutes les tuiles actions ou architectes sont placées en cercle, tu as, toi, ton tour de jeu, c'est tu vas avancer ton bonhomme d'au moins une tuile d'action ou architecte, jusqu'à même faire le tour du plateau si tu veux. Mmh. Et après, une fois que tu es posé dessus, tu fais ou non l'action. Après, tu te regardes si tu es toujours dernier entre toi et ton adversaire.
Plus loin, ouais.
Et si c'est toi qui es en attente, c'est-à-dire que ton adversaire était le plus loin que toi, tu peux encore rejouer.
C'est un peu le principe du golf.
Si tu peux décider d'aller chercher un coup très loin, mais qui t'intéresse beaucoup, ou qui... potentiellement, mais ça veut dire que ton adversaire va pouvoir faire toutes les actions derrière pour le temps de te rattraper sans que tu l'empêches et ça peut être dangereux.
Et c'est la mécanique du jeu
qui crée une tension
au début, ça fait un petit peu peur. Alors c'est un jeu à deux, qui prend de la place, j'ai presque dit pour plaisanter, qui prend autant de place qu'un jeu pour quatre, parce qu'il faut s'étaler un peu. Bon, sur une table de café, il faut pousser un peu les bières et les cafés, mais ça tient,
mais ça passe très bien,
et tu dis, t'as un peu peur au début, mais en fait la mécanique est très simple. Tu avances, tu fais, tu avances, tu fais. Il y a des petites subtilités, mais on va pas en parler, mais tout est dans l'anticipation. À quel moment j'ai envie de construire ça, il me faut des ressources, mais est-ce que je...
Et à quel moment tu vas...
Il faut prendre des risques.
Il faut prendre des risques et te dire que tant que tu n'as pas dépassé le joueur qui est devant toi, c'est à toi de continuer de jouer. Donc potentiellement dire, je peux me gaver de ressources parce qu'il a voulu faire un bon coup. Donc moi après, je vais avancer tout doucement pour me gaver en ressources, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que derrière, je peux aller chercher une action très loin et qui va me faire marquer plein de points, mais j'ouvre un boulevard à mon adversaire qui peut faire ce qu'il veut derrière, ce qui va enchaîner 5-6 actions.
C'est ça, dans Glasgow, ce jeu de société, lorsque tu fais une action, tu sais à peu près ce que va faire l'autre, parce que tu lui donnes un peu la clé pour faire ses actions derrière.
Il y a pratiquement le seul hasard qui vient, c'est effectivement dans les bâtiments, parce que quand on construit un bâtiment, on prend un nouveau bâtiment dans une tuile, donc
dans une pioche,
qui est face cachée, et on ne sait pas ce qui va arriver. Donc quand tu construis un bâtiment, tu espères qu'un autre bâtiment va bientôt arriver et que tu vas peut-être pouvoir les construire, mais peut-être que ce bâtiment arrivera très tard, tu sais pas. Alors il y a le hasard, c'est vrai que j'ai pris des risques, ça n'a pas joué en ma faveur, effectivement, mais la prochaine partie, si je fais la même chose, ça.
Mais c'est très sympa, parce que c'est très difficile en ce moment de faire des jeux à 5, 6 joueurs, voire plus. Je pense pas que autour de la table, on a fait par exemple un loup-garou récemment.
Non, mais hier on a fait partie à 5 et 6 joueurs.
On était
7 même.
On est 7, 8, on a fait un jeu à 7.
Donc je pourrais vous recontacter pour faire un Dune, par exemple.
Non, mais c'est un petit jeu.
Je viens de décrocher Dune. Je me rends compte que le film, on a eu ce trailer qui est arrivé. Qui dit trailer de film dit aussi jeux de société qui vont découler de cette licence. Et je suis extrêmement impatient d'acheter tous les jeux qui
auxquels on n'aura jamais le temps de jouer, de toute façon. Tu pourras les mettre dans ta collection.
Le Descartes qui prend la poussière.
Exposé.
Voilà.
Et donc, Glasgow, effectivement, la mécanique très simple. Et c'est vrai que c'est assez rapide.
C'est ça qui
la première partie était assez rapide, parce qu'on se dit 20 bâtiments, ça va être long à construire, mais non, parce que comme on joue à deux, on construit au moins 2-3 bâtiments par tour chacun, Donc ça va très vite en fait. J'ai pas compté le nombre de tours qu'on a fait. Mais...
Ouais. En fait, c'est ça qui m'a plu dans le jeu, parce que des jeux à deux joueurs, t'en as plein. Comme là, j'ai dit, t'as la gamme de Funforge, t'as la gamme de jeux à deux de Yellow, t'as même d'autres jeux dans d'autres
éditeurs, des jeux abstraits,
enfin plein de trucs. Là, ce qui m'a plu, par exemple, là, ce qui m'a plu, c'est vraiment déjà que le matériel est de très bonne qualité. L'iconographie est bien faite, même pour les non-joueurs peuvent.
La boîte est bien remplie, mais je sens qu'il y a encore un petit peu de place pour une extension.
On peut mettre une extension, ou alors il manque un petit calage bien propre pour tout ça. Le jeu est simple dans son approche des règles et dans l'explication. Je vous l'ai expliqué en 5 minutes top chrono, vous avez joué tout de suite dans la foulée sans pratiquement aucune question. Donc c'est un jeu que vous pouvez amener en famille, amener à votre compagne ou compagnon qui est non joueur. C'est pas parce qu'on est repassé en zone rouge que je prévois un futur confinement, tu vois, mais voilà, c'est un jeu pour deux joueurs, peut-être pour ça aussi. Ça peut aussi servir de début d'après-midi ou début de soirée entre potes en attendant que les autres joueurs arrivent pour faire un jeu plus gros, ou un filler entre deux gros jeux, ou en fin de soirée. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon jeu dans cette gamme-là. Après, c'est pas un jeu qui révolutionne le mode. Il n'y a pas de mécanique.
Le seul truc, c'est que moi, quand j'ai vu la boîte, j'ai dit Glasgow. Ouais, enfin, ils auraient pu l'appeler. Ils auraient pu faire un jeu par pays. Et appeler Lille ou je sais pas quoi, peu importe. Mais...
Par contre, c'est vrai que j'y ai joué avec. Donc, on a un pote qu'on a en commun qui est très compliqué pour lui faire apprendre les règles d'un jeu parce qu'il s'en lasse très vite.
C'est notre référence.
On ne citera pas le Christophe puisqu'il fait partie de l'émission.
C'est notre référence.
C'est notre référence.
Si lui, il a compris les règles du jeu, c'est que c'est bon.
C'est franchement, tu peux l'amener partout avec toi, tout le monde comprendra. Mais je lui ai expliqué le jeu. Il m'a posé une ou deux questions, mais grand max. Il a refait une partie.
Quand est-ce qu'on mange ?
Dans ce style-là, je l'ai rétamé parce que c'était sa première partie. Bon, moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai commencé à ranger le plateau. Et il m'a dit, non, on en refait une. Et il avait envie d'y rejouer. Et pourtant, il n'est pas très gamer de base. Donc, il a vraiment des points forts là-dessus. C'est quand même un jeu qui est tactique, tendu et nerveux.
Ça te torture les neurones au bon endroit. Voilà. C'est ça.
Mais la sensation du jeu n'est pas la même en début et fin de partie. C'est surtout ça aussi. Tu as une évolution dans ton gameplay. C'est pas juste j'avance, je prends des ressources.
Au début, tu joues
un
peu la légère et à la fin, tu te rends compte que le placement des cartes devient extrêmement important, ce qui te fait réfléchir de plus en plus. Et la partie semble s'éterniser sur la fin. Alors, on parle de
Glasgow.
Je vous propose d'écouter un groupe d'hommes, je te le fais, c'est une petite dédicace, un fameux groupe de Glasgow qui s'appelle Shit Disco. Et qu'ils ont fait
un programme.
Ils ont fait une chanson sur le Kung Fu. Oh. Donc, on va s'écouter ça. Conversation, booty construction, push out with me in your introspection. Direction, ooh, no protection, ooh, I try to hide my erection. I say one, two, I know Kung Fu. They can read you, they watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, boo. One, two. Now you know what to do. I'll be wild. c'était... C'était très bien. Attends, Dom, je te mets ton shit disco.
Shit disco, s'il te plaît. On était obligé de le passer. Je pense qu'on va le repasser. Même.
Ouais, je suis partant.
I know Kung Fu.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+.
Sur Radio Campus, qu'on peut passer shit disco. Hein.
Dans l'émission Heureusement en France. Une petite dédicace pour notre arbitre de back-to-back qui se sent visé apparemment de temps en temps. N'hésitez pas à nous laisser des messages, hein, Facebook, Instagram, Twitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Discord ?
Reddit, TikTok. Non, je vais désinstaller TikTok, faut pas déconner non plus.
Au pire, vous appelez Radio Campus, hein, et vous exprimez vos choix de musique. Vous connaissez un groupe de Glasgow ? Hein,
vous venez de Glasgow et vous faites de la musique ?
Voilà, vous appelez France Ferdinand à CDC. N'hésitez pas à nous contacter. On enchaîne. Alors, on parlait d'un jeu de société qui s'appelle Glasgow. Et qu'est-ce qu'on vient de voir ? Un projet participatif d'un jeu de société. Alors, contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, c'est pas sur Kickstarter, c'est pas sur Ulule. Ils ont lancé leur propre campagne.
Il faut dire, c'est Hasbro, donc c'est quand même une grosse boîte de jeux. Qu'est-ce qu'on va aller chez une petite boîte comme Kickstarter ? On a assez de moyens, on va faire notre propre Kickstarter à nous. Et c'est un jeu, un nom mythique, hein. Ça paraît pas me faire qu'on le cite, c'est HeroQuest. Moi j'ai vu ça il y a quelques jours, quelques semaines. Il y avait un panneau HeroQuest avec un compte à rebours qui se lançait. Je dis,
teaser.
Oh là là, ça promet, ça va être bien. Et puis le projet, ça s'est lancé. Et bon, comment dire, c'est HeroQuest, quoi. Je dis, ok, il doit y avoir des trucs nouveaux. Oh, il y a quatre personnages. Il y a un barbare, il y a un archer, il y a un nain, il y a un
magicien. Ouais.
Très bien. Ah si, il y a du nouveau. Maintenant, il y a une barbare, il y a aussi une sorcière, une voleuse et une naine. Ok, bon, d'accord, c'est nouveau. Et il y a des méchants. Oui, il y a des méchants. Il y a une gargouille. Ah oui, il y a une gargouille. Il y a des coffres. Ouais, il y a des tables. Ah oui, il y a des tables comme dans le... Mais c'est quoi la différence avec le premier ? Ben voilà.
Eh ben, tu feras moins de montage de petits cartons.
C'est pas faux.
Parce qu'avant, hein, pour ceux qui connaissent HeroQuest, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire simple, vous avez un plateau de jeu, il y a quelqu'un qui fait une sorte de maître de jeu qui joue les monstres.
Le maître du donjon.
Alors attention, ici on ne parle pas de scénario et d'aventure où il va falloir réfléchir. Vous arrivez dans le donjon et vous t'avances dans le couloir.
Vous
et
tuez tous les monstres, vous ouvrez toutes les portes, vous ouvrez les coffres et vous tuez le grand boss à la fin.
Et vous tombez dans tous les pièges.
Le maître de jeu, lorsque vous arrivez dans une pièce, va monter la petite porte sur un socle, va monter l'armoire sur un socle en carton, et il va disposer la pièce et vous allez rentrer dedans et vous allez dire ben, y a rien, ben, je vais ailleurs.
C'est nul.
Mais c'est pas grave, il y a du décor, c'est super beau.
Mais on se raconte des histoires. Et donc dans le nouveau, eh ben, c'est pareil, sauf que les décors sont magnifiques, imprimés en 3D, etc. C'est très beau, hein. Je vois, à part pour les nostalgiques. Alors il y a deux, ce qu'on appelle des pledges. Tu as la version à $99 et la version à $150. Voilà.
Après, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas de matos, parce que c'est vrai que le HeroQuest de base, que tu l'achètes en occasion, tu l'as minimum 150, 200, 300, et encore si tu n'as pas d'extension dedans. Par contre, d'avoir le matériel pour beaucoup moins cher et d'aller choper les règles de l'HeroQuest anglais ou américain, je crois que c'est anglais, qui n'était pas du tout le HeroQuest français qu'on avait eu en France. Qui était le HeroQuest français était une purge au niveau des règles, c'était limite... On apprend à des débiles à jouer avec des figurines. Alors, c'était vraiment la base de la base.
Tu prends le cube blanc avec des points, tu le mets dans ta main, et tu secoues ta main, et tu lâches le cube blanc sur la table. Et il va rouler, et il y a un chiffre qui va s'annoncer. Vous avez réussi à lancer un dé.
Waouh. Mais c'était vraiment le béaba du jeu d'aventure au niveau français, alors que si tu allais dans les règles anglaises... Tu avais vraiment une profusion de règles avancées, tu avais des choses, tu avais des scénarios, enfin tu avais beaucoup plus de choses.
Le gros avantage, quand tu avais une boîte ou un copain qui avait une boîte d'HeroQuest, c'est que tu l'ouvrais, tu jetais les règles à la poubelle,
et tu prenais les figurines et les décors, jeu de rôle,
et tu jouais à autre chose. Bah oui, le nombre de parties de jeux de rôle qu'on a fait où quand on entrait dans une auberge, il fallait des tables et des chaises et des coffres et des armoires, on allait piocher dans la table d'HeroQuest. Ah, oh, on est attaqué par des orques. Attends, je prends ma boîte d'HeroQuest, j'attrape des figurines et je les jette sur la table.
De toute façon, t'avais deux grosses boîtes, t'avais celle d'HeroQuest et celle de Space Crusade, et avec ça, tu faisais toutes les parties de jeux de rôle.
Tu pouvais jeter les règles et les pions, on s'en fout, ça servait à d'autres jeux. C'est ça, quoi. Et tu les peignais. comme nous, avec des gouaches ridicules. C'était horrible.
Disons qu'on était aucune compétence et tu faisais d'aplats, des trucs sans
souci. On était loin du niveau de la forge ludique.
Oh. Bon, on avait un niveau à l'époque.
On n'avait pas de niveau. Donc voilà, c'est sur le site du Hasbro et Avalon Hill. C'est magnifique.
Donc là, fini les cartons et les petits socles.
Non, tout est
modélisé avec une belle imprimante 3D, sûrement.
À la rigueur, le point bonus que ça peut faire, c'est justement faire baisser le prix des trucs d'occasion, parce que tu auras une nouvelle offre.
Encore.
Mais est-ce que tu as des boîtes d'extension qui sont comme rares à trouver encore?
Tu vas me dire, je comprends qu'il fait un repassier, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand tu fais imprimer, en général en Chine, quand tu crées ton jeu, les éléments en plastique coûtent moins cher à produire que les éléments en carton quand tu fais un jeu. C'est bon à savoir. Si un jour vous voulez créer un jeu, vous dire je vais faire des magnifiques tuiles de décor en carton. Ça, le papier, ça doit coûter moins cher que le plastique. Détrompez-vous. Le plastique, créer des décors, des figurines, etc. En plastique, ça coûte beaucoup moins cher que les faire en carton ou en papier. C'est
alors,
étonnant.
Est-ce qu'à terme, parce que c'est vrai qu'il y a une évolution, hein, tout le monde a eu ou a peut-être eu une imprimante à la maison pour imprimer du papier, est-ce qu'à terme, dans 5, 10 ans, les gens n'auront pas tous une imprimante 3D à la maison et on va vous vendre un set de HeroQuest à imprimer vous-même? Non, t'as pas l'air très...
Oui, puis après, t'as aussi le fait d'avoir un peu comme maintenant tu as pour certains éditeurs qui te disent le format de carte et tel nombre de paquets de tel format de carte pour sliver tes cartes dans ton jeu. Pourquoi pas que les éditeurs maintenant te diront, si tu veux l'extension en plus, tu faudras tel fil de couleur de plastique, tel fil de couleur plastique, tel grammage et autant de volume pour faire ta figurine ou tes figurines.
Oui, c'est sûr que les imprimantes 3D ont un petit peu bouleversé le monde du jeu de figurines de stratégie, c'est sûr, pour les amateurs, mais on connaît tous des gens qui en ont des imprimantes 3D, mais bon.
Là, à la rigueur, si t'es un trentenaire ou un codroi qui veut faire tester à ton gamin ou tes gamins le jeu de ton enfance que t'as perdu et que tu veux pas racheter 150 balles...
Ils s'en foutent parce qu'ils ont le même... Ils ont le même.
La rigueur, quoi.
Parce que ce jeu existe en plus sur console, PC ou mobile, donc j'ai un jeu qui est mille fois plus beau sur mon téléphone, pourquoi je passerai des heures à peindre une figurine?
Et HeroQuest avait eu son adaptation faite par exemple sur Amiga, d'ailleurs j'ai mis la musique...
Oui, j'entendais la musique de fond. Hein. Oui, très bien.
Et la version Amiga, pour l'époque, était correcte, hein, était fidèle au jeu, un peu chiante et banale.
Des heures et des heures. Je sais pas comment on a pu jouer à ça, quoi.
C'est ça, c'est le problème de l'édition française qui vraiment une purge par rapport aux éditions anglaises, quoi.
Tu fais une partie, mais 20 ans plus tard par nostalgie, mais tu te dis, c'est bon, quoi. Et tu le re-ranges et c'est fini, on est reparti pour 20
ans. Voilà, c'est un peu le... L'objet de collectionneur. Voilà, j'ai le HeroQuest ancienne version, j'ai celui de nouvelle version. Je pense que 80% des joueurs vont acheter ça sans y jouer.
Effectivement, là, comme c'est un Kickstarter, il y a des objectifs. Alors, je ne vais pas regarder quand il se termine, mais ils s'étaient fixés comme objectif 1 million de dollars. Ils sont à plus de 1,5 million, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc, je ne m'inquiète pas. Il y a forcément des fans. Mais 100 euros ou 150 euros, il y a des dizaines de figurines dedans, je ne dis pas, mais c'est un peu.
Puis maintenant, tu as énormément de jeux qui ont, pour ce prix-là, beaucoup plus d'intérêt
et
de meilleure qualité, des figurines, des mécaniques qui valent vraiment le coup.
Ouais.
Enfin, c'est dommage d'avoir monté à ce prix-là.
Ouais, dommage.
Est-ce que vous voulez enchaîner par une autre petite musique qui vient de Glasgow?
Absolument.
Hein, puisque je vous le rappelle, heureusement en France.
En mode découverte. Alors, ce n'est pas un album découverte, c'est une ville découverte.
C'est ça. Et on peut faire une petite dédicace à nos collègues de Radio Campus, à l'émission Chrysanthème, qui a l'habitude de choisir un thème et de faire une émission avec. Et nous, on fait ça un peu à moitié, hein, puisqu'on passe plusieurs
musiques. Tous les mardis 23h, c'est bien ça ?
23h minuit. Merci. Et j'ai eu l'occasion de participer avec eux. Et c'est vrai qu'on a une ambiance ici rythmée et passionnée. Pour parler de musique sur un thème, hein, l'émission Chrysanthème porte bien son nom, à suivre si vous êtes auditeur de Radio Campus. Alors nous, notre thème de cette semaine, c'est Glasgow, et on a découvert qu'il y avait un groupe qui s'appelait Aerogram.
Aerogram.
Ça va être plus dur à dire que Danana machin.
Personne n'a encore réussi à prononcer ce nom.
Vous êtes sympa parce qu'on avait du ACDC, on avait du Franz Ferdinand, vous avez choisi Shit Disco, Aérogramme.
Pourquoi écouter des groupes connus alors que tu peux faire découvrir des trucs?
Ben oui, c'est un. On est un peu dans le mode album découverte. On va s'écouter Barrières de Aérogramme.
Aérogramme.
Ouais, ouais, bref. Fight over the battles won. I thought you let your blindfolds and watch them burn. I thought that I could show you all that I found, but these barriers dictate all sight. C'était Aérogramme. Ah bah oui, pardon, vas-y Dominique, je te laisse.
Aérogramme.
Voilà, mais avec Barriers.
Des groupes non connus, mais très bons.
Mais qui viennent de Glasgow, ce jeu de société dont on a mentionné. Alors si vous nous rejoignez en cours d'émission, sachez que vous pouvez réécouter l'émission sur le site de Radio Campus en cliquant sur la tranche 18h-19h, le dimanche bien sûr, ou sur notre site anotherpodcast.fr. La pub, c'est fait. On peut enchaîner.
Et tant que vous êtes sur le site de Radio Campus, vous restez sur le dimanche, mais vous allez de dimanche matin, de 10h à 11h, vous avez notre confrère, notre collègue Veikin, qui fait son émission Twitch Café tous les dimanches. Et ce matin, c'était une émission particulièrement intéressante parce qu'il parlait de Twitch.
Et oui, comment faire sa propre émission Twitch ?
Lui-même est sur Twitch, il Twitch très souvent, il Twitch même son émission en direct tous les dimanches matin sur Twitch.
Donc si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblent les studios de Radio Campus...
Et ce matin, il avait invité d'autres Twitchers et ils ont parlé de Twitch. Comment est-ce qu'on se lance, pourquoi se lancer sur Twitch? Depuis quand est-ce qu'ils font du Twitch? Pourquoi Twitch? Comment on fait du Twitch, etc. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Twitch? Ils vont refaire d'autres émissions, donc c'est particulièrement intéressant. Donc vous pouvez aller revoir son émission sur sa chaîne Twitch. Donc Veikin, ça s'écrit V-A-Y-K-H-I-N. Et sinon, vous allez sur le site de Radio Campus et vous pouvez l'écouter. C'est très facile à retrouver.
Et on n'hésitera pas. C'est dans notre liste des projets
à faire.
Voilà, un jour également, on le suivra sur Twitch. Twitch est quand même une plateforme qui a pris beaucoup d'ampleur, qui permet aux gens de découvrir des jeux vidéo et de découvrir des personnes et d'interagir comme ça avec
des... C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Et malgré ce qu'on pense, Twitch n'est pas qu'une plateforme de jeunes boutonneux qui parlent avec d'autres personnes en jouant aux jeux vidéo. Il n'y a pas que ça.
Il y a aussi des jeunes boutonneuses.
Et boutonneuses
qui
aussi.
Qui parlent avec leur...
Non, mais il y a énormément de contenu, de personnes qui montrent leurs projets, qui font du jeu vidéo, certes, mais qui parlent. Enfin, il y a énormément de choses. Il faut surfer sur Twitch comme on surfe sur YouTube, par exemple.
Il doit y avoir explorer quelque part sur Twitch.
Il ne faut pas faire attention qu'aux chaînes recommandées, parce qu'on a regardé une chaîne sur Minecraft, et forcément, derrière, tu as toutes les chaînes recommandées sur du Minecraft. Non. Il faut aller plus loin, il faut aller chercher nous-mêmes ses propres chaînes.
Alors, moi, je suis qu'une seule personne qui est Corben, un jour qu'on recevra dans l'émission, et j'ai découvert grâce à ça qu'avec Amazon, vous avez droit à un abonnement gratuit, par exemple. Alors, je profite de parler d'Amazon parce que je vois que les codes gnous, apparemment, ne seront pas...
Ils sont encore en vacances.
Voilà. Les vacances peuvent durer longtemps. On espère les revoir très prochainement.
Parce qu'on commence à s'inquiéter même.
On a plein de news sur Microsoft, sur Amazon, sur Google et on attend que leur arrivée pour...
On est en train de faire une petite réserve de news spéciale GNU.
Voilà, pour leur pourrir un peu leur...
Qui n'est pas piqué des hannetons.
Leur intro. Alors, des points agenda. Alors, je sais qu'il y a une croisière dans le nord.
Une croisière Gad Elmaleh?
Ah,
si tu vas faire du karaoké.
Ça pourrait être pas mal. Une croisière karaoké avec Gad Elmaleh, ça pourrait être sympa.
C'est ça, et à la fin, vous vous jetez dans la deule.
Exactement.
Non, ici, on part, et ça va rejoindre une émission qu'on va faire très prochainement sur la bière à consommer avec modération. C'est la croisière du houblon.
Très joli nom.
Qui va se passer le mois prochain. Donc quasiment un mois.
Il y avait une première édition au mois d'août qui avait eu beaucoup de succès. Ils se sont dit, ah ben on va relancer ça.
Tout à fait.
Alors, et on est un peu déçus puisqu'elle se termine à 18h, donc on aura du mal.
Le souci, c'est qu'elle finit à 18h retour côté Citadelle de Lille, donc nous, le temps de revenir au studio, ça va être un peu chaud.
Le canal ne passe pas près des studios de Radio Campus, sinon ils nous auraient déposé au hasard.
Voilà, au pire, on aurait pris notre maillot, on se serait jeté dans l'eau, on aurait nagé jusqu'à Campus, mais non. Mais là, effectivement, c'est l'échappée bière. Donc une structure qui fait énormément de choses autour du houblon, des jeux de piste.
Beaucoup de choses dans la région lilloise, oui.
Et aussi sur le divers... région de la France. Des fois, ils ont fait les meilleures terrasses pour boire une bière à Montpellier, par exemple. Donc, énormément de choses, même en Belgique. Et là, cette fois-ci, le 25 octobre 2020, à 14h30, ils démarrent à la Citadelle sur une péniche, une petite croisière, pour aller à la brasserie Tandem, pour faire une petite visite et une dégustation, et revenir par le même chemin.
Il y aura aussi des bières sur la péniche, rassure-moi.
Voilà.
Ouf, ça va.
Donc pour ça qu'on en parle maintenant, alors que c'est le 25 octobre, c'est assez loin, c'est parce qu'il faudra sûrement réserver sa place et qu'il y aura des places limitées en fonction de ce qui se passe en ce moment. Et aussi, on ne peut pas tous picoler sur une péniche, à un moment donné, on va tomber. Donc, ça se fait à 14h30, il y a le départ de la Citadelle sur la péniche. Pendant la navigation à bord, il y aura des dégustations commentées par un biérologue. Après, à 15h30, 16h30, il y a la visite guidée de la brasserie. Et il y aura aussi la dégustation de deux bières de la gamme de la brasserie. Brasserie Tandem, quand même. Et de 16h45 environ et 18h retour à Citadelle, il y aura un petit apéro amélioré avec ce qu'on appelle des finger foods. Mais c'est quoi? C'est des sortes de verrines, des choses comme ça, des amuse-bouches. Toujours animé par un biérologue de l'échappée bière. Le prix, après, c'est là où on en vient au petit côté négatif pour ce que c'est, si on aime ou pas. C'est quand même 49€ la place.
Oui, mais bon, combien ça coûte une croisière? Hein,
sur la Dole,
ça peut être sympa. Tu fais pas ça tous les dimanches. Voilà. Mais j'avoue que ça peut être très sympa.
Et puis si tu te retrouves confiné sur le bateau et qu'il y a de la bière, t'es pas trop déçu dans le fond.
Et puis tu prends un ou deux jeux, genre The Belgian Beer Race ou un petit jeu sur la bière, quoi, tranquille, bon. Pour jouer sur le bateau.
Ça va, on a encore un mois pour s'inscrire à la croisière du Houblon, puisque ça sera le 25, hein, 25 octobre.
C'est sur le site de l'échappée bière, c'est échappée-bière. Au singulier.fr, et ils ont des tas de choses sur leur site. Des
très prochainement.
Pour découvrir la culture brassicole.
Effectivement, et très prochainement, hein, la semaine prochaine, à Amiens, si vous aimez voyager, là, il y a le salon À toi de jouer. Un petit salon de jeux.
Ah, petit, t'es gentil, toi. On en avait déjà parlé, touché un mot. C'est un salon qui se déroule dans un endroit où il y a le même week-end, il y a le salon du chocolat. Et avec la même place d'entrée. Vous avez accès aux deux salons, à vous de voir.
Ça donne envie.
Ça donne très envie.
Et
alors pour l'instant, toujours pas de nouvelles d'annulation, etc. Moi, je pense que j'ai essayé d'aller faire un tour. Donc...
C'est dommage que le 3 octobre, j'ai le film Spinal Tap à aller voir. Parce que samedi, j'aurais bien été faire un tour quand même.
Quel film ?
Spinal Tap ?
Spinal Tap. Tiens, ça sera la musique de fin, tiens.
Ouais. Ça tombe bien parce que c'est la fin.
C'était pas du tout convenu, dis donc. Oh là
là. J'apprécie votre engouement donc, pour la fin de
l'émission. Toutes les infos sur le salon du jeu à Amiens, c'est à toi de jouer, tout collé, -amiens.fr. Vous avez toutes les informations. Donc, pour l'instant, c'est encore là. On croise les doigts. Parce que jusqu'au dernier moment, on sait bien que les grandes manifestations peuvent être encore annulées. Donc on y croit.
On est à un cas là, hein, pour l'instant.
Ouais. Pour rappel, c'est un salon où il y a du jeu de plateau, du jeu vidéo, de l'artisanat,
c'est
de la BD, il y a de tout.
C'est le festival du jeu et de l'imaginaire, donc c'est très, très large.
Renseignez-vous, c'est vraiment intéressant.
Voilà, on va se quitter sur cette belle note. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. N'hésitez pas à nous suivre, hein, partout. Vous tapez Heureusement en France, vous nous trouverez bien.
On va avec les programmes de Radio Campus, donc pas de gnous ce soir.
Voilà, on les attend avec impatience. Et nous, on va s'écouter du Spinal Tap avec Beach What? School.
Encore un hommage à Dom.
What?
Ça balance pas mal
à
Paris. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus.